Bonne journée à vous qui nous soit donné en ce jour d'accueillir cette lumière eucharistique, ce goût de l'Eucharistie. Nous avons demandé au Seigneur, là, dans cette oraison, d'avoir le goût de le servir. Un jour, quelqu'un me disait ceci. Voilà, on nous pose la question, mais que désires-tu vraiment? Ben, demande parfois, disait cet accompagnateur spirituel, demande parfois de désirer. Voilà. Parce que, je sais pas, il y a plein de choses que je désire. Et alors, désirer, oui. Et pour nous, hein, qui méditons encore ce matin sur l'Eucharistie, c'est que vivre la parole de Dieu là, dans ce goût eucharistique. La parole de Dieu a toujours goût eucharistique. Alors c'est pour cela aussi que cette parole peut faire l'unité en nous. Hein. Nos désirs ils vont un peu dans tous les sens. Hein. C'est pas parce qu'on a beaucoup de désirs qu'on désire. C'est faire ce discernement, mais qu'est-ce que je désire avant tout? C'est ce que nous avons demandé, là, dans la prière d'intercession, prière de louange et intercession. Tu nous révèles l'unique nécessaire, ne permet pas que la dispersion nous aveugle. La dispersion, c'est ce qui nous fait regarder dans tous les sens. Mais quand on regarde dans tous les sens, on ne voit pas vraiment. Alors, encore ce matin, demandons au Seigneur d'apprendre sur l'Eucharistie, mais surtout d'apprendre de l'Eucharistie. Le pape Benoît XVI, là, commentons la rencontre de Jésus là, avec les disciples d'Emmaüs, hein, a écrit ceci. L'évangile de Luc nous dit que leurs yeux s'ouvrirent quand ils le reconnurent. Et ils le reconnurent seulement quand Jésus prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors qu'auparavant, leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. La présence de Jésus, d'abord à travers ses paroles, puis avec le geste de la fraction du pain, a permis aux disciples de le reconnaître. Ils purent éprouver de manière nouvelle ce qu'ils avaient précédemment vécu avec lui. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous? Tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures. Et le pape Benoît XVI ajoute, « L'Eucharistie nous ouvre à l'intelligence de la Sainte Écriture. Comme la Sainte Écriture illumine et explique à son tour le mystère eucharistique. » C'est là qu'est la confiance qui ne déçoit pas. Alors je propose simplement ceci. Hier, c'est le récit de l'institution dans l'Évangile selon saint Luc. Détailler ce récit, il a une unité là dans l'Évangile de Luc. Et ce matin, c'est simplement saint Jean. Ces paroles de Jésus sur le pain de vie. Quand on voit la richesse de ce texte, hein, et quand on voit aussi comment, à travers là, ce que le Seigneur dit, il y a tout un chemin qui nous ouvre. Jean, chapitre 6, versets 22 à 71. Ce sera l'essentiel. Et puis, un psaume. Mais le psaume 110, 111, hein, dimanche 3 au soir. Alors, tout d'abord, écoutons. Pour y dire ceci, c'est que là, notre façon peut-être d'accueillir la parole du Seigneur, c'est de laisser se dire ce texte jusqu'au bout. Laisser se dire à toutes les étapes qu'il y a dans cet échange crucial, pourrait-on dire. Parce que, voilà, le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Échange. Avec un peu ces cinq étapes dans l'échange. Lire ce texte, le laisser se dire jusqu'au bout. La lectio. Et puis, la méditation. Que me dit-il ? Qu'est-ce que je retiens surtout ? Et puis, qu'est-ce que je dis au Seigneur ? Action de grâce ? Demande ? Le temps de l'invocation, de la prière. Et puis le temps du silence, de la contemplation. Quel regard je porte sur Dieu qui se révèle ainsi ? Quel est le visage de Dieu ? Ce visage de l'espérance. Dans la lumière de ce texte, aussi, quel regard je porte sur les autres, sur ma vie, sur ma manière de vivre l'Eucharistie et d'en témoigner. Quels appels je retiens. C'est quand même important, vous savez, le curé d'Ars, quand on sent, quand on perçoit tout l'attachement que le curé d'Ars avait pour l'Eucharistie, et qu'il disait ceci, « Notre Seigneur, qui est la vérité même, ne fait pas moindre cas de sa parole que de son corps. » Parce que sa parole, c'est lui la parole. La parole s'est fait chair. La parole se fait Eucharistie. Eh bien, ce texte, je vais le lire lentement, puis chaque fois, mettons en œuvre, ou mettons plus exactement là, en relief, hein, peut-être tout ce parcours que Jésus fait faire. Ce parcours. Bon, tout d'abord, où se situe ce texte ? Ben, nous avons vu aussi que là, quand Jésus avait multiplié les pains, ben, on croyait que tout était arrivé. Ben, dans l'évangile de Jean aussi, juste avant, là, chapitre, au début du chapitre 6, il y a la multiplication des pains. Oh, on était tellement étonnés à la vue du signe qu'il venait d'opérer, le signe, tenons bien ce mot, les gens dirent, celui-ci est vraiment le prophète, celui qui doit venir dans le monde. Verset 15. Mais Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau seul dans la montagne. C'est l'incompréhension totale. C'est, bah oui, le récit des tentations, encore une fois, là. Écoute, bah, pourquoi tu prends ce chemin qui nous déconcerte, hein, alors que tu peux faire des choses extraordinaires qui emporteraient, j'allais dire, l'adhésion, la foi. Et puis, juste après, quand Jésus s'est retiré, ses disciples descendent jusqu'à la mer, et puis ce sera la marche de Jésus sur les eaux aussi, avec le vent qui souffle, et puis on entend plus le bruit du vent et des vagues, hein, que la parole du Seigneur. Alors, Jésus, le pain de vie. Trop souvent on dit, mais oui, c'est vrai, il annonce l'Eucharistie. Il faut voir. Comment Jésus l'annonce ? Comment, là, quand l'évangile a été annoncé, on a pris le temps de dire, voilà. Et en particulier, bon, dans l'évangile de Jean, et nous savons comment cet évangile, quoi, aussi, avec tout ce que chaque évangéliste apporte, mais là, il y a quelque chose de particulier. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il y avait eu là une seule barque et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples dans leur barque. Mais où est-il, ce Jésus? Celui qu'on voulait faire roi. Les disciples, ou ceux-ci étaient partis seuls. Toutefois, venant de Tibériade, d'autres barques arrivèrent près de l'endroit. Vous vous rendez compte, hein, la rumeur. On vient loin. Ils avaient mangé le pain. Près de l'endroit, ils arrivèrent près de l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Lorsque la foule eut constaté que ni Jésus ni ses disciples ne se trouvaient là, les gens montèrent dans les barques et ils s'en allèrent à Capharnaüm, à la recherche de Jésus. Et quand ils l'eurent trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père qui est Dieu a marqué de son sceau. » Il le cherche. Pourquoi? Parce qu'il a multiplié les pains. Ils le cherchent parce qu'ils ont mangé du pain, ils ont mangé des pains à satiété. C'est leur besoin qui parle. Et Jésus veut éveiller le désir. Il y a eu de très beaux livres, vous savez, qui nous ont marqués, c'est vrai. Je pense à Denis Vasse, hein, Temps du désir. Hein. Quand il dit aussi... avec son interprétation, hein, à la fois, prenant en compte le texte, hein, et puis aussi tout ce qu'il y a, enfin, d'investigation psychologique. Hein. Il dit, voilà, souvent, on va vers le Seigneur avec nos besoins, et c'est vrai, il y a nos besoins. Mais si on est enfermé dans nos besoins, eh ben voilà, encore plus des signes et des signes. Et il prend cet exemple, c'est l'enfant. L'enfant, là. L'enfant qui cherche, ses parents qui cherchent sa mère comme le lieu de son rassasiement. Pas besoin de nourriture. Et puis, peu à peu, après, il va découvrir que ses parents ils ont une existence qui n'est pas que de répondre à ses propres besoins. C'est ça aussi, vous savez, de découvrir l'autre. Parce que l'autre, on le ramène facilement à soi. Qu'est-ce qu'il m'apporte? Qu'est-ce que je lui apporte? Ah ben c'est vrai que ça compte, on est dans la condition humaine. Et voilà, le premier temps de l'échange. Alors, ils lui dirent alors, que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir, voilà, ce qu'on désire, nos besoins, tout ce qui est ramené à nous? On est prêt à faire des choses, on est prêt à faire des sacrifices, du moment que ça va nous rapporter quelque chose. Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Voilà la demande essentielle. Croire en celui qui l'a envoyé. Deuxième temps. Troisième temps. Ils lui répliquèrent, « Mais toi, quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous croyions ?» Écoute, mais tu demandes la foi. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la foi ?« Quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous croyions ?» Comme ça, ce sera un peu l'évidence, hein. Tu feras un signe tel que, on pourra réaliser ce que tu demandes. Quel signe? Quelle est ton œuvre? Au désert, nos pères ont mangé la manne, ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel. Voilà. Il y a eu des miracles quand même, dans notre histoire, quoi. Regarde ce qui s'est passé, au désert. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Encore une fois, Jésus fait faire un pas. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Vous vous trompez, vous rappelez l'histoire en disant « Moïse, il a fait des choses extraordinaires, alors toi tu peux faire des choses encore plus extraordinaires que lui. » Mais Jésus dit « Mais si Moïse a fait cela, c'est pas lui d'une certaine façon. » Oui, lui, là, il a été le serviteur de l'œuvre de Dieu. Mais regardez, vous savez, c'est toujours ce qu'on cite souvent, mais je trouve que c'est très éclairant, hein, proverbe chinois, là. Quand le sage montre le ciel, l'imbécile regarde le doigt. Hein, le sage, il montre la direction du ciel, mais on s'arrête au doigt. Quoi. Ça arrive souvent dans la vie, que voilà, on ne va pas jusque là où est la source de la lumière. Pain de Dieu, alors, très bien, si c'est ça. Ils lui dirent alors, et on avance dans le dialogue, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là, d'où qu'il vienne, mais enfin, écoute, voilà, tu nous dis que le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ah, bah d'accord, on croit qu'il descend du ciel. Mais, voilà, donne-nous ce pain-là. » Et puis là, Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. » C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi n'aura pas soif. Ce je suis, hein, ce je suis là qui ici bon apparaît dans l'évangile de Jean. On le retrouvera d'autres moments. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Cette fois dans l'évangile en je suis. Mais là. Je suis, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi n'aura pas soif. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Élevé de terre, je tire à moi tous les hommes, vous savez, comme hier. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné. Que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné. Surabondance du don de Dieu. La multiplication des pains. Rassasiez. Là, mais c'est... Voilà. La surabondance du don de Dieu. Que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alors là, c'est le trouble complet. Dès lors, les Juifs se mirent à murmurer à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui descend du ciel », et ils ajoutaient « Mais n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph ? Ne connaissons-nous pas son père et sa mère? Comment peut-il déclarer maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole et leur dit « Cessez de murmurer entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Dans les prophètes, il est écrit « Tous seront instruits par Dieu ». Quiconque a entendu ce qui vient du Père, reçoit son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père si ce n'est celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Je suis le pain de vie au désert. Vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mangera ne mourra pas. Le murmure. Regardez la place du murmure dans tout le cheminement du peuple de Dieu. J'ai entendu hier aussi avec les serpents, ils récriminaient contre Dieu, ils murmuraient sans cesse. on a dit d'une façon très profonde, et que de fois aussi on le médite, si vous voulez, dans notre propre itinéraire. Le plus difficile, c'est pas d'une certaine façon de vivre les sacrifices que Dieu demande. Des fois on dit, ah ben voilà, vous êtes totalement donné à Dieu, comme si on avait, j'allais dire, le summum, quoi, du sacrifice. Le sacrifice le plus grand, ce qui demande le plus de foi, c'est de croire en l'accomplissement de la promesse de Dieu. On voit bien, hein, dans toutes les étapes d'une vie, dans les étapes de la vie de l'Église, dans la vie de l'Église, à travers tout ce que nous vivons, les uns, les unes, les autres, quoi. La promesse que Dieu fait. Le murmure, c'est ça. Tiens pas de bon, sa promesse, ben, ça se réalise pas, pourquoi? Je serais prêt quand même à faire des sacrifices si... Ben, je voyais un petit peu qu'elle est... C'est là, vous savez que... Voilà, c'est théologal, là. La foi, l'espérance, la charité. Et puis, c'est à ce moment-là que Jésus dit vraiment cette parole qui nous fait entrer dans le mystère eucharistique. Verset 51 et suivant. Ah, vous voyez, c'est vrai, le pain de vie, mais aussitôt il parle de l'Eucharistie. Mais oui, il en parle. Mais il faut pas séparer l'Eucharistie, enfin, de tout ce que le Christ, enfin, nous donne de découvrir de son mystère. Il nous fait entrer dans son mystère. Je suis le pain qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Alors là, c'est trop. Sur quoi les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture, mon sang vraie boisson, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé, ils sont morts. Mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. Tels furent les enseignements de Jésus dans la synagogue à Capharnaüm. Et après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples commencèrent à dire, cette parole est rude, qui peut l'écouter? Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient, une fois de plus le murmure, murmuraient à ce sujet, ses disciples, Jésus leur dit, c'est donc pour vous une cause de scandale? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. En fait, Jésus savait dès le début quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer. Et il ajouta, c'est bien pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Et juste avant, vous voyez, nous avons entendu ceci que voilà, celui qui croit, il est instruit par Dieu lui-même. Il est bien instruit, c'est vrai, parce qu'il apprend des choses des autres. Mais s'il n'y a pas ce chemin du cœur, s'il n'y a pas cette adhésion profonde, et qui peut, d'une certaine façon, avec le respect de la liberté de chaque personne, donner l'intelligence de la foi? Le Seigneur lui-même. Pour ça, aujourd'hui, c'est très important l'intelligence de la foi, parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut. Mais après, il y a quelque chose qui échappe. Qui échappe aux autres. Mais enfin, ce que je vous ai dit, ça a dû vous convaincre. Non, non, non. Pour ça aussi, vous savez, quand on vit un temps bon, de retraite, mais constamment aussi dans nos vies, hein. Même quand il est difficile quelquefois d'avoir peut-être une vie de prière aussi régulière qu'on le souhaitait, des temps d'oraison, ainsi de suite. Mais le Seigneur, là, il sait aussi. Il sait si, bon, vraiment, nous sommes voyous à son égard, quoi, pour dire, ben non, c'est vrai, oui, j'y prie. Mais en fait, me resituer devant lui, tout restituer dans le mystère de Dieu. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent, cessèrent de faire route avec lui. Beaucoup, beaucoup. Alors Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas partir ?» Simon-Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. » Ben voilà un acte de foi, un véritable acte de foi. Et Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et cependant, l'un de vous parle comme le diable, l'un de vous est un diable. L'un de vous, voilà. Il désigne ainsi Judas, fils de Simon l'Iscariote, car c'était lui qui allait le livrer, lui l'un des 12, avant d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. » Voilà, écoutez, c'est l'essentiel. Mais peut-être, cet essentiel peut retentir en nous à travers quelques mots. Je m'arrête simplement à ces quelques mots. Ces quelques mots, ben c'est ceux-là que le prêtre la prononce juste avant la communion. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, trop, enfin, ou gros, l'agneau de Dieu, mais c'est quoi, comment, souvent, moi, je vais précéder, c'est, voilà, pour aider à bien comprendre, hein, quand il est dit dans l'Apocalypse, l'agneau sera leur pasteur et les conduira vers les sources de la vie. L'agneau, le pasteur, l'agneau, le serviteur, hein. Très beau texte, et ce matin, on a lu un passage, hein. Déjà, enfin, le serviteur souffrant, les chants du serviteur. Voilà, heureux les invités, après dit-on, ben, voici l'agneau de Dieu, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Ah, Seigneur, je suis pas digne. Alors, les mots sont les suivants. Tout d'abord, invités, heureux les invités. Quand Jésus dit, ben voilà, c'est dans la foi que vous pouvez venir à moi. Et la foi, c'est tout d'abord croire en l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui se donne, c'est Dieu qui invite. Et dans l'Eucharistie, on voit comment l'annonce de l'Évangile, eh bien, voilà, à travers tous les intermédiaires, tous les serviteurs de la parole de Dieu, tout ce que nous pouvons faire, tout ce dont nous pouvons témoigner, mais c'est Dieu qui invite. Et, j'allais dire, la vie eucharistique, le témoignage eucharistique, je reviendrai en quelques mots tout à l'heure, là, ce témoignage que nous donnons, enfin, voilà, c'est ce goût de la parole de Dieu, ce goût eucharistique, c'est tout d'abord la réponse à une invitation. Le pape François, là, dont j'ai désiré d'un grand désir, numéro 6, dit ceci, avant notre réponse, bon, à l'invitation pour l'Eucharistie, mais notre réponse de foi, je crois en Dieu. Avant notre réponse, il y a son désir pour nous. Il y a son désir pour nous. Le désir de Dieu. Dieu qui veut vraiment nous combler de son amour. Nous n'en sommes peut-être pas conscients. Chaque fois que nous allons à la messe, dit le pape, la raison première est que nous sommes attirés par son désir pour nous. J'ai désiré d'un grand désir. De notre côté, la réponse possible, qui est aussi l'ascèse la plus exigeante, est comme toujours celle de nous abandonner à son amour. de nous laisser attirer par lui, nous laisser attirer par lui. Il est certain que toute réception de la communion au corps et au sang du Christ a déjà été voulue par lui lors de la dernière scène. Nous n'y étions pas, mais dans, la pensée, dans le dessein de Dieu, nous étions là, chacun invité. On peut dire qu'aujourd'hui, ce mot invitation, car ici, source et sommet, mais nous le vivons au cœur de la mission. De plus en plus, la mission est devenue invitation. Invitation. Avant, souvent, c'était la convocation dans les paroisses. On disait comme ça, vous avez entendu ce que monsieur le curé a dit aujourd'hui, et puis c'est... Et même après, quand on est affiché aux portes de l'Église, mais combien le voit, et pourtant, il y en a des invitations. Mais l'invitation, elle est toujours portée par des personnes. L'invitation, c'est vrai, avec tous les moyens que l'on a, et il faut vraiment les utiliser. Et on a quand même des choses très belles à faire, qui sont... Mais après, rien ne remplace l'invitation. L'invitation, notre vie, allez, nous sommes des invités... Invitant, l'invitation. La parole de Dieu est invitation. L'Eucharistie nous fait découvrir que la mission, elle est toujours, toujours invitation. Reconnaissance de l'appel de Dieu, reconnaissance du désir de Dieu est notre réponse. Invitation. Deuxièmement, pain rompu pour un monde nouveau. Nous le chantons. L'Eucharistie, nourriture, pour la vie quotidienne. Vraie personne qui dit « je ne peux pas vivre sans l'Eucharistie », je pense à Charles de Foucault, je pense tant de... Mais tout plein, dans la Bible, fondateur, un père bonhomme, à la place de l'Eucharistie, pain rompu pour un monde nouveau. Pain rompu, oui. Le pain, la table eucharistique, invité, c'est l'invitation du Seigneur. Oui, c'est moi qui invite, mais... Là, il y a quelques jours, j'étais interviewé parce que à Nantes, c'est créé un groupe là, qui existe depuis pas mal de temps. On va fêter les 30 ans, là. Et ce groupe s'appelle Chemin d'Espoir. Voilà. Construction d'une nouvelle église dans un quartier, là, petite communauté de sœurs. Cette église, tout d'abord, quand on l'a construite, on avait demandé aux gens, il y a eu tout un projet, d'architectes, tout ça, plusieurs. Et alors, les gens disaient, une église, il faut qu'elle soit visible. Il faut qu'elle soit repérable, qu'on dise c'est une église. Pas mal. Deuxièmement, qu'elle soit accueillante. Qu'on dise, comme disait quelqu'un, même si on n'est pas là, des pratiquants réguliers, mais qu'on ait envie d'y entrer quelquefois, peut-être, Et puis où il se passe aussi quelque chose, invité. Et alors, il y avait un groupe de personnes, et grâce à une sœur, et puis d'autres personnes aussi qui étaient là, accueillantes, en groupe, et puis là, il y avait une personne, et on m'avait invité, parce qu'il y avait ce groupe, on partageait la parole de Dieu avec, il y avait un goûter, puis après, à l'église, un psaume, tout ça, avec des gens, souvent déshérités, et tout ça, mais aussi avec leur dignité de personne, chacun a un prix infini aux yeux de Dieu. Puis on dit, une personne, c'est le mot invitation, si vous voulez, qui m'a fait penser, puis le mot invitation est table, pain rompu pour un monde nouveau. Et alors, on dit, la sœur dit, on vous voit pour la première fois, on est heureux de vous accueillir, mais comment vous êtes là? Qui c'est qui vous a invité? Alors, il dit, c'est une telle qui m'a invité. Alors, la sœur lui dit à celle qui m'a invité, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Tu devrais venir, c'est rudement intéressant. On papote sur Jésus et ça nous redonne la pêche. L'invitation, ça nous redonne le moral, On dit des choses sur Jésus et puis ça nous redonne le moral. Puis c'était l'invitation pain rompu pour un monde nouveau. Ben oui, pour un monde nouveau. Mais j'allais dire là, aussi on perçoit tout ce qui est donné, hein. Et à travers, bon, je dis, la diversité, mon évocation. Bah, moi j'étais là, le prêtre, l'évêque était là, les personnes qui étaient là, et la sœur aussi. La sœur avec moi, tout ce que, pain rompu pour un monde nouveau. Regardez la place qu'il y a dans la célébration eucharistique, hein, pour qu'on prenne vraiment, vraiment, hein, conscience de la densité de ce pain. Ce pain. Le pain, comme je disais hier, les moyens de vivre, les raisons de vivre, le goût de vivre. Mais en même temps, ça déborde aussi. Ça déborde le présent, quoi. Ça donne, c'est ouvert à l'avenir, quoi. C'est ouvert à l'avenir. Et alors, c'est vrai qu'il y a, dans l'Église, et on dirait encore quelques mots, mais vous savez aussi, les vœux ont dimension ou eucharistique. Pauvreté, chasteté, obéissance. Et puis, dans toute vie, quoi, dans toute vie, il y a l'aujourd'hui, hein, là, ce qui, le maintenant, puis qui est ouvert à cet avenir. C'est pas rêver du ciel. Oui, mais c'est être ouvert quand même sur quelque chose qui ne peut pas se limiter à tout ce qu'on peut vivre. C'est les épiclèses, bon, le rôle de l'esprit, évidemment, je reviendrai là. Mais c'est aussi l'eschatologie, quoi. C'est ouvert sur un monde, qui est des vies très présentes au monde, et qui là, j'allais dire, témoigne que c'est aujourd'hui auquel on apporte tant de soins, auquel on donne tant de prix, ouvre sur quelque chose qui nous dépasse. On en a besoin aujourd'hui. Et quelquefois, c'est vrai, on a trop aplati nos célébrations. Quelquefois aussi, on les a tellement trop spiritualisés qu'on ne savait pas trop qui participe. Chacun participe. Et en même temps, il y a toujours quelque chose qui est pain rompu pour un monde nouveau. Ce monde nouveau, il est déjà là. Il est signifié. Et en nos vies, il y a toujours, voilà, ce présent là qui également ouvre à quelque chose qui est plus grand. Voilà. L'invitation, pain rompu pour un monde nouveau, cette communion. La communion, qui nous ouvre aussi, bon, on le dit, et le prêtre le dit, la communion du ciel et de la terre avec, bon. Et puis, un troisième mot, c'est devenez ce que vous recevez, que nous avons chanté hier. C'est si beau, hein. Saint Augustin, si vous êtes le corps du Christ et ses membres, c'est votre sacrement qui est placé sur la table du Seigneur. C'est vous qui êtes là aussi. Vous recevez votre sacrement, vous répondez amen, oui c'est vrai, à ce que vous recevez, et vous y souscrivez en répondant amen. Sois donc un membre du Christ pour que soit vrai ton amen. Et comment cela peut se dire? Ben, je dirais, c'est le miracle eucharistique, enfin. Le miracle, c'est que le Seigneur, hein, voilà, nous l'entendons, là, dans l'évangile de Jean, se soit donné de cette manière. Je dirais ceci. On peut le représenter de la façon suivante. Jésus, c'est l'évangile. Jésus est la parole de Dieu. Je suis, dit Jésus, voilà. Je suis le pain de la vie, je suis... Bon, il est celui qui révèle le Père. Il est la parole de Dieu. Jésus, c'est le serviteur. Nous l'avons entendu dans le récit de l'institution, quand les apôtres se querellent, et il dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Constamment. Il est le serviteur, il est le pain de la vie. Alors, vivre l'Eucharistie, bon, c'est vivre cela. Le Seigneur, le pain de la vie, la parole de la vie, l'évangile, et le Seigneur, le serviteur. Eh bien, tout, d'une certaine façon, là, est dit, non, je suis le pain de la vie. C'est-à-dire que là, tout est rassemblé. D'une certaine façon, c'est tout l'évangile qui est là. C'est tout le Christ, quoi, dans son mystère, hein, qui est là, le Christ homme et Dieu, le Christ pleinement Dieu, pleinement homme, voilà, qui est là. Et puis nous, quand nous le recevons, ben nous recevons, oui, le pain, là, le corps du Christ, le pain, mais pour que notre vie déploie l'évangile, le partage et le service. C'est-à-dire que tout, d'une certaine façon, est donné dans l'Eucharistie pour que notre vie devienne Eucharistie. Elle devient Eucharistie quand notre vie témoigne de la parole de Dieu, quand notre vie laisse percevoir ce que le Seigneur nous demande d'être, serviteurs de nos frères, serviteurs de l'amour de Dieu pour les autres. C'est toujours quelque chose, enfin, à découvrir sans cesse. Et je veux dire, c'est vrai, on aimerait tant qu'on fasse tous quelquefois le même dans la communion, mais s'aider à le comprendre, difficile, parce que il y a eu quelquefois une telle façon de respect pour l'Eucharistie. Bon, je reviens pas, j'évoquerai une fois ou l'autre peut-être à la fin de cette retraite, mais nous sommes là, dans un infini respect. Respect vraiment, là, de ce que l'Église nous donne de découvrir et de vivre du Christ. Et puis, ce que peut-être nous vivons dans la diversité, quelquefois, des situations et dans ce qui, quelquefois, peut nous étonner et nous faire réagir. Il y a un infini respect, mais le respect ne dispense jamais, quand même, de pouvoir dire et de pouvoir exprimer enfin ce qui nous tient à cœur. Alors, le psaume 110, vous verrez. Je vais terminer par là. Dimanche, m'arrive souvent de reprendre ce psaume le dimanche, là, en disant l'Eucharistie vécue dans diverses communautés célébrées. Et ce psaume, on se dit, mais c'est comme si vraiment il prend tout son sens aussi après la venue du Christ, quoi. Dans les psaumes, il y a aussi toute une dimension prophétique. Psaume 110 ou 111, dimanche 3 au soir. Avec là, en italique, grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur le Tout-Puissant. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur. De tout cœur, je ferai Eucharistie. Dans l'assemblée, parmi les justes, grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Ah, j'apprends pas simplement les œuvres du Seigneur. Je me laisse instruire par les œuvres du Seigneur. La création, oui, les autres, le mystère de l'autre. Mais le mystère du Christ au milieu de nous, quoi. Le mystère eucharistique. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. C'est la célébration de la Pâque. La Pâque nouvelle, nous. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il donne des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Justice et sûreté, les œuvres de ses mains. Sécurité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Il apporte la délivrance à son peuple, son alliance, nouvelle alliance, nouvelle éternelle, et promulguée pour toujours, saint et redoutable est son nom, la sagesse. Commence avec la crainte du Seigneur. Ah, mais c'est très beau ce cantique aussi. La sagesse a dressé la table. On chante, hein? Ben voilà. Sagesse, et sagesse, il y a à la fois dans la sagesse l'intelligence, hein, et puis l'étymologie. S'appérer, ça veut dire goûter. C'est-à-dire que c'est à la fois lumière pour l'intelligence, hein, et c'est nourriture pour la vie, nourriture pour le cœur. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. La crainte, c'est Encore une fois, ce n'est pas la peur, c'est qui donc est Dieu qui se manifeste ainsi, qui accomplit sa volonté en est éclairé, à jamais se maintiendra à sa louange. Ben, psaume dit aujourd'hui, j'ai gardé tout cela, c'était un prêtre Fidei Donum, là, en Amérique latine, Jacques, hein, qui un jour, prêchait une retraite auprès du diocèse auquel il appartenait, là, en France, et qui me dit ceci, j'ai composé un texte, vous savez, là, je vous le donne, comme ça. Ça va terminer, si vous voulez, l'entretien, mais pour dire l'actualité aussi, la parole de Dieu. Comme un mendiant, à la table de la fraction du pain, je m'avance, les mains tendues comme un mendiant, et comme tendent les mains tous les mendiants du monde, je suis là, comme un pauvre. Oui, je tends les mains vers toi, qui a aimé plus que personne n'a aimé. J'attends que tu déposes en ma main ce petit morceau de pain qui est ton corps. Oui, j'attends que tu verses au creux de mes mains l'amour qui est le tien. Alors le pauvre que je suis deviendra riche d'un amour infini. Je te reçois et je te dis, change ma pauvreté en un grand amour qui a la source dans le tien. Change ma pauvreté en un grand amour qui a sa source dans le tien. Voilà. Dans ce texte ici, il y avait même le nom du prêtre Fidei Donum, voilà. À qui nous soit donné ainsi d'entendre la parole du Seigneur et de dire comme Pierre, en sachant toutes les questions peut-être que nous pose aussi quelquefois notre façon de vivre l'Eucharistie. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie qui n'est que vie.